C'est le journal de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous. Au lendemain des manifestations contre le pass sanitaire, nous irons en Martinique. Dans ce département où la population est très peu vaccinée, des manifestants se sont aussi rassemblés. Et à l'inverse, Israël, pays le plus vacciné du monde, elle entame aujourd'hui une campagne vaccinale avec une troisième dose pour les personnes âgées. Les Jeux Olympiques, Florent Manaudou en argent et Alexia Tavernier en finale du lancer de marteau, entre autres. Nous reviendrons aussi sur la chaleur écrasante à Tokyo. Dans l'actualité également, Deliveroo qui pourrait quitter l'Espagne à cause d'une nouvelle législation et un arrêt au bord de la Vélodyssée très apprécié cette année.
Et à 7h50, on part en colo. Enfin un bol d'air pour les enfants, les ados. Coupe le cordon avec les parents, mais quel est le protocole sanitaire et pourquoi les colos attirent beaucoup moins depuis quelques années? Le président de la jeunesse au plein air, Christian Dominé, sera avec nous dans 20 minutes.
France Inter.
Plus de 200 000 personnes dans les rues hier, c'est plus que samedi dernier.
Des manifestations contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale dans plusieurs dizaines de villes en France. À Paris, ils étaient plus de 14 000 selon le ministère de l'Intérieur. En Martinique, où la population est très peu vaccinée, un peu plus d'un millier de personnes se sont rassemblées hier devant la préfecture à Fort-de-France. Sans masque pour beaucoup et non vaccinés pour la majorité, ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent être une dictature dans un contexte sanitaire très compliqué, avec des services hospitaliers débordés et un taux d'incidence record sur une île reconfinée depuis le début du week-end. Le reportage à Fort-de-France, Thibault Lefebvre.
Selon eux, il faut se vacciner. Un slogan chanté en créole pour dénoncer avec virulence l'obligation vaccinale.
Macron a dit que nous sommes en guerre et nous, en Martinique, nous lui disons que nous sommes en légitime défense. Et qu'à son vaccin de merde, nous n'en voulons pas.
Jerry et Géraldine brandissent une pancarte avec un dessin d'un soignant en blouse blanche qui tient une seringue et une mère de famille, un couteau à la main, qui menace de lui trancher la gorge.
On veut s'en prendre à mon enfant. Les enfants qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas avoir accès à l'éducation. Ils pourront aller à l'école, mais s'il y a un cas Covid, ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas y aller. Alors c'est une forme de chantage. Et s'il le faut à la Martinique, on prendra le coup de là. On ne va pas laisser nos enfants se faire vacciner.
Des propos sans mesure ni concession, appuyés par une présence syndicale forte. La CGT, FO, l'UGTM, l'USAM et la CDMT ont toutes appelé à manifester. Bruno Charles-Achille est le secrétaire général de la CDMT Santé, majoritaire à l'hôpital.
Nous ne sommes pas opposés à la vaccination. Il faut que ça soit libre. Les recherches aujourd'hui de le monde entier montrent que les gens vaccinés sont porteurs très graves. C'est pas moi qui le dis, je le lis sur les réseaux sociaux. Alors, qui dit vrai dessus?
Les syndicats ont rendez-vous demain en préfecture pour essayer de faire entendre leurs revendications.
Et ce soir à Dijon puis Fort-de-France, dans le quartier des Hauts-du-Port, des tensions, des pillages et des feux de poubelles sont signalés. La police tente avec des gaz lacrymogènes de disperser quelques dizaines de jeunes toujours dans la rue. Ils ont bravé le couvre-feu imposé en Martinique depuis hier. À l'inverse, dans le pays le plus vacciné du monde, on en est à plus de 1500 nouvelles contaminations chaque jour. Alors aujourd'hui, coup d'envoi officiel d'une nouvelle campagne vaccinale pour les Israéliens qui ont reçu les deux injections il y a plus de 5 mois, soit les personnes âgées qui avaient été vaccinées dès le mois de janvier, Michel Paul.
Le président israélien Isaac Herzog a le premier montré l'exemple et dès ce matin, les Israéliens de plus de 60 ans sont invités à recevoir une troisième dose du vaccin Pfizer. Explication du professeur Cyril Cohen, immunologiste à l'université Bar-Ilan.
Une troisième dose permet de retrouver un taux d'anticorps bien supérieur à ce qu'il y avait après la seconde dose, et donc de protéger contre ce variant qui est le variant Delta, bien plus contagieux que tous les autres variants que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui.
Depuis plusieurs semaines, les taux de contamination sont repartis en flèche dans un pays qui avait atteint le premier une forme d'immunité collective.
On avait jusqu'à présent à peu près 97% de protection des formes graves et on voit qu'avec le temps, cette efficacité commence à s'estomper. On est aujourd'hui à peu près à 81% de protection des formes graves grâce à la vaccination.
L'objectif de cette nouvelle campagne vaccinale, éviter un retour au confinement pour les fêtes du Nouvel An juif le mois prochain, mais un sondage le montre, il y a une baisse de motivation. Seuls 67% des personnes âgées de 60 ans et plus envisagent de recevoir la troisième injection. Jérusalem, Michel Paul, RFI. Pour France Inter.
Direction Tokyo et les Jeux Olympiques avec une matinée en argent pour Florent Manaudou. Le nageur français arrive deuxième en finale du 50 mètres nage libre. Après avoir risqué l'élimination, les volleyeurs français se qualifient pour les quarts de finale. Et puis Alexandra Tavernier sera mardi en finale du lancer de marteau. Elle s'est qualifiée cette nuit non sans douleur. Fanny Lechevestrier, vous êtes en direct de Tokyo. La chaleur y est écrasante et a fait souffrir Alexandra Tavernier.
Oui, c'est une horreur. J'avais hâte d'en finir. Déclaration de la lanceuse de marteau après sa qualification à l'athlétisme, victime d'un coup de chaud hein, ce matin au stade olympique. Il faut dire que depuis hier, les températures sont encore montées d'un cran ici à Tokyo. Aujourd'hui à 9h, le thermomètre affichait déjà plus de 33 degrés avec en plus et surtout un taux d'humidité de plus de 90%. Et c'est surtout cela qui use et épuise les organismes. Cela vous étouffe, vous prend littéralement à la gorge. Les coins d'ombre sont très rares ici. Les nombreuses structures en béton, comme au BMX par exemple ce matin, renvoient la chaleur. La luminosité très forte est également un facteur à appréhender. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, les athlètes étaient prévenus. Beaucoup s'étaient préparés dans des conditions très chaudes, dans des salles spéciales baptisées Thermoroom. Mais on le voit, cela n'empêche pas les malaises. Hier, une joueuse de tennis a dû quitter le court en fauteuil roulant, victime d'un coup de chaud. Daniil Medvedev, le numéro 2 mondial du tennis, a lui interrogé un brin provoqué à la fin de sa partie. Si je meurs, qui sera responsable ? Personne ne lui a répondu.
Merci Fanny Lechevestrier en direct de Tokyo. Et puis j'ajoute qu'en escrime, les hommes fleurettistes se sont qualifiés pour les demi-finales. Et enfin, sans grande surprise, ce nouveau forfait pour la gymnaste Simone Biles. L'américaine ne sera pas en finale au sol demain. Elle a déjà renoncé au final du concours général du saut et des barres asymétriques. Deliveroo va-t-elle quitter l'Espagne ? La plateforme britannique de livraison de repas à domicile avance. En tout cas, cette hypothèse est pour cause. Une nouvelle législation entrera en vigueur le 12 août, législation qui obligera les plateformes à embaucher leurs livreurs comme salariés. Deliveroo doit consulter ses livreurs en septembre avant de trancher. Le cas de l'Espagne qui légifère pour réglementer le statut de ses livreurs indépendants très souvent précaires, c'est une première en Europe et un peu partout dans le monde, entre manifestations des livreurs et inquiétudes des gouvernements. Le cas de ces plateformes de livraison interroge de plus en plus Manuel Ruffez.
C'est un observateur précis du phénomène, puisqu'ancien livreur, il a été l'un des tout premiers à en dénoncer le fonctionnement. Jérôme Pimaud est aujourd'hui le président du CLAP, le collectif des livreurs autonomes des plateformes. Et pour lui, le cas de Deliveroo en Espagne confirme bien que leur modèle économique à ces plateformes ne fonctionne pas.
Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y en avait pas de modèle économique. C'est juste, grosso modo, des plateformes qui vivent et qui survivent grâce à des levées de fonds d'investisseurs qui remettent au pot sempiternellement parce que les plateformes sont incapables de gagner de l'argent, même avec des travailleurs qui ne sont pas socialisés, on va dire, avec des indépendants. Déjà, ils n'arrivent pas à en gagner.
Pour lui, bien sûr, l'Espagne est un modèle à suivre qui a su légiférer sur le statut des livreurs. Mais plus encore, son regard se tourne vers la Chine où se développent ces plateformes.
Même si on peut imaginer que la Chine n'est pas le champion du social, ils ont quand même un intérêt, on va dire, politique intérieur qui fait que les travailleurs ne doivent pas être trop précaires parce que beaucoup de travailleurs, on parle de 8 millions de livreurs, notamment pour ne parler que d'eux en Chine, 8 millions de livreurs hyper précarisés, ça pose un problème politique, économique et social. Et donc la Chine, elle se pose des questions, elle est en train de taper du poing sur la table.
Jérôme Pimaud, désespéré qu'au contraire en France, rien ne bouge.
C'était samedi noir sur les routes des vacances hier. Les bouchons, c'est le prix à payer pour les vacances, sauf pour ceux qui font la route à vélo. C'est le cas de nombreux touristes qui empruntent la Vélodyssée, cette piste cyclable qui relie Roscoff en Bretagne à Hendaye au Pays Basque. Des vacances autrement avec halte au camping ou à l'hôtel. Stéphane Iscock s'est posté au bord de la piste cyclable entre la dune du Pilat et Biscarros à la rencontre de ces vacanciers à vélo.
Ils ont le sourire même sous la pluie et pourtant Inès a déjà 500 km dans les jambes.
On vient de Paris, mais on a démarré la Vélodyssée à Saint-Nazaire. Quand même, hein, on va jusqu'à Biarritz. On a démarré par plus de 80 km par jour, donc on a fait fort. En fait, je calcule plus. Là, arrive à un moment, on calcule pas, on roule et puis on verra bien. On n'a pas défini nos étapes, en fait. On n'a rien prédéfini à l'avance, donc on s'arrête quand on n'a plus envie de rouler et on dort où on trouve de la place. Donc c'est vraiment une sensation de liberté et la France est si belle, ça fait du bien de la découvrir finalement.
Un quart d'heure plus tard, un autre couple arrive en sens inverse. Franck et son épouse roulent depuis Saint-Jean-de-Luz, direction Bordeaux. 300 km en 3 jours en vélo électrique.
C'est une première fois, donc on s'essaye avec nos vélos à assistance électrique, mais c'est des vélos de ville, alors on n'était pas du tout équipés. Mais alors on s'est dit, allez, on essaye 3 jours, 300 km. C'est l'idée de passer du tourisme soft en douceur et de voyager en regardant, en ayant le temps de regarder le paysage et d'apprécier la forêt et cet immense poumon vert qui fait tout l'Atlantique. Ça laisse les cours à l'imagination et on est ailleurs en même temps, donc c'est magique.
Pas de bouchons, pas de klaxons sur les 1200 km de la Vélodyssée, la plus longue véloroute de France.
Il fait chaud au Groenland également, où les températures sont 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. Conséquence cette semaine, un épisode de fonte massive de la calotte glaciaire. Elle a fondu d'environ 8 milliards de tonnes chaque jour, soit le double du rythme moyen en été.
C'était le journal de Laura Dulieu. Merci Laura. On passe au temps de ce dimanche.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Et Jean-Pierre Hamot, l'été a bien du mal à s'installer, hein ?
Oui Amélie, hein, l'anticyclone des Açores campe sur ses positions, mais toujours trop loin de notre pays pour le moment. Du coup, les conditions météo sont loin d'être estivales. Votre dimanche va se dérouler la plupart du temps sous un ciel partagé entre nuages et courtes éclaircies, avec en prime des averses passagères. Et puis ces averses évolueront parfois vers l'orage, notamment au nord de la Seine, mais aussi près des frontières de l'Est. Allez, j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Vous profiterez tout de même d'un bon ensoleillement autour du golfe du Lion et de la basse et moyenne vallée du Rhône à la Corse en passant par la région PACA. La tramontane sera de service pour souffler jusqu'à 60 km/h dans son domaine. Et puis prévoyez 80 km/h le long des côtes varoises et vers les caps corses.
Et les températures, elles sont toujours timides hein, pour la saison, Jean-Pierre.
Oui, effectivement, les maximales cet après-midi évolueront entre 19 et 30 degrés du nord au sud. Dans le détail, n'attendez pas plus de 19 à Cherbourg et Saint-Malo, 21 à Cambrai, 22 dans le nord-est, mais aussi à Bordeaux, Toulouse et Limoges, 23 à Paris et Lyon, comptez 27 à Toulon, 28 dans la côte, la cité phocéenne, 30 à Bastia, et puis la maximale de 31 degrés est attendue à Nice.
Jean-Pierre Hamot de Météo France, merci à vous.